Ça enregistre là?
Ouais, on est bon.
Eh ben super, je mets juste une petite tweet. Et c'est parti. Ben, bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce live un petit peu spécial, comme disent les influenceurs de mes couilles. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est pas grave, je le redis encore une fois. On va débriefer un petit peu de cette semaine de Ligue des Champions qu'on a eue. Avec moi, il y a Karim, que vous voyez en photo en noir et blanc. Alors, Karim n'est pas décédé, ce n'est pas un hommage à Karim. C'est juste que sa webcam ne marche pas, donc on a mis sa photo. Karim, comment ça va?
Et hâte d'évoquer justement cette deuxième partie des huitièmes de finale.
Et oui, bah, c'était une semaine, on va dire, assez trépidante, si je peux employer des mots du XXe siècle, avec pas mal de surprises et de rebondissements, notamment avec deux séances de tirs au but. Il me semble que c'est une première depuis 96 des tirs au but en huitièmes de finale. C'est pour dire quand même qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions, pas mal de choses. On a eu une grosse surprise, moi je trouve, avec l'élimination de l'Inter Milan. Malheureusement, Alban qui doit être encore en train de noyer son chagrin, mais une chose qu'on ne voyait pas forcément arriver. Et puis après, pour le reste, des résultats peut-être logiques, mais quand même avec des choses sur lesquelles qui sont passées et sur lesquelles on va revenir. On va commencer par les affiches qu'on avait mardi, Karim. Tu veux commencer par quoi entre Barça-Napoli et ou alors Arsenal contre Porto?
Bah, moi, franchement, désolé pour toi, mais honneur au Barça. Donc, on va commencer
par Barça.
Barça-Napoli.
Eh bien, on va là-dessus. C'est toi qui choisis, c'est toi le chef. Victoire 3-1 du FC Barcelone contre Napoli. Un match au final où il n'y a pas eu énormément de suspense. Malheureusement, le Barça a très vite pris en main les choses avec deux buts inscrits dans les 20 premières minutes. Après, Napoli est revenu au score à la 30e, mais le match est quand même, a été assez maîtrisé par le Barça. Et puis, c'est le but de Lewandowski en fin de match qui scelle un petit peu la victoire Blaugrana. Il y a eu une petite polémique avec une faute d'arbitrage et un possible pénalty qui n'a pas été sifflé sur une faute sur Osimhen. Toi, t'en as pensé quoi de cette... déjà? Est-ce qu'il y avait pénalty selon toi ou pas?
Moi franchement, je suis à la place du camion de la VAR. Je me pose et je regarde 2-3 minutes avant d'analyser l'action. Chose que j'ai faite à froid au lendemain du match. Le Napoli est quand même bien lésé sur cette action-là. Même si, au final, j'ai envie de dire, ça n'aurait peut-être pas eu de conséquences sur le résultat, tant le Barça a dominé sur ce match. Quoi.
Oui, alors, c'est vrai que, ben, je ne sais pas, après, tu sais que le Barça est quand même une équipe qui, alors je m'excuse, mais manque parfois un petit peu de maîtrise émotionnelle. Et peut-être qu'un but aurait relancé le match, aurait un petit peu compliqué les choses. Il faut aussi être un petit peu juste, et il est vrai qu'à match aller, c'était plus le Napoli qui avait été avantagé par l'arbitrage avec 2-3 décisions un petit peu favorables en faveur du Napoli. Sur ce match-là, on peut avoir degré côté napolitain. Sur le reste, ouais, tu l'as très bien dit, c'est une rencontre qui était maîtrisée par Barcelone. Tu en as pensé quoi dans l'ensemble de ce match-là?
Bah, franchement, on savait que l'équipe de Xavi était quand même attendue, notamment après ouais, ce match aller qui s'était conclu sur score, il me semble, un but partout, c'est ça?
Exactement, un but partout, ouais.
Donc, un Barça qui était attendu et voilà, c'était une preuve de savoir si on avait un Barça qui reste encore en vie dans une saison un peu morose, j'ai envie de dire. Mais voilà, ils l'ont prouvé. Ils ont prouvé qu'ils sont quand même au rendez-vous de ces huitièmes de finale. Huitièmes de finale qui disputent pour la première fois depuis 2 ans. Mmh. Parce que pendant cette période-là, c'était l'Europa League qui attendait les Catalans. Franchement, un beau match du Barça. Notamment grâce au jeune Koubarsi, il me semble, qui était élu homme du match, si mes souvenirs sont bons.
Donc, c'est lui.
Donc voilà, un Barça attendu et on a hâte de voir comment s'ils parviennent à confirmer, tout en fonction aussi également de l'adversaire qui les attend.
Oui, complètement. Bah, tu parlais d'une saison compliquée pour le Barça. Ça va quand même mieux, je trouve. Depuis quelques matchs, il y a un regain de forme. Il y a un petit peu du mieux avec une équipe un peu plus offensive et un peu plus efficace offensivement parlant, plutôt qu'offensive, pardon. Donc, ça va être intéressant à suivre. Et comme tu le dis, bah, à voir pour les quarts de finale. Même si c'est en championnat, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on attendait. Peut-être que la Ligue des Champions pourra faire office un petit peu de parenthèse, de bulldozer pour eux et qu'ils pourraient, bah, il ferait une belle compétition et pourquoi pas gagner un titre, on verra. Il y a la compétition en tout cas, mais c'est vrai que cette saison-là, c'est vraiment une saison pour les clubs espagnols, avec trois clubs espagnols dans les quarts de finale. Le Barça, il fera partie et la compétition est tellement ouverte qu'on peut peut-être s'amuser à espérer quelque chose pour eux. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur ce match-là, peut-être sur le Napoli, ou est-ce que tu veux passer à Arsenal?
Moi, je voulais juste conclure par rapport au Barça et au quart de finale. C'est surtout qu'il va falloir faire attention parce que au niveau des blessures, c'est pas encore joli joli. Parce que il semble que ouais, il y a De Jong qui est blessé, Pedri qui est blessé. Donc à voir un peu comment
Absolument.
ça va évoluer, à voir un peu comment ça va évoluer. Mais s'ils arrivent d'ici les quarts de finale à récupérer au moins un ou deux joueurs de base de la formation de Xavi. Je pense que on pourra avoir quelque chose de beau.
Ouais, absolument, ce sera à suivre. Côté napolitain, moi, ce que j'ai juste rajouté pour compléter un petit peu tes paroles, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'eux, malgré cette
Ouais,
défaite,
exact. Exact.
ils payent un petit peu, bah, malheureusement, cette saison qui est en demi-teinte avec beaucoup de changements d'entraîneurs, un vrai manque de stabilité et un manque d'assurance dans les choix bah, général du club. Ils payent vraiment ce manque d'ambition. On n'est pas trop surpris, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis pas trop surpris par le fait qu'ils ne passent pas les huitièmes de finale. Et il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence pour tout reconstruire et retrouver un Napolitain qui rejouera en Ligue des Champions, parce que, à moins d'une énorme surprise, on ne les reverra pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Et ils vont perdre pas mal de cadres durant le mercato. Donc il va falloir vraiment repenser à tout reconstruire pour retrouver une équipe du Napoli qui, malheureusement, a fait adieu à la Coupe aux Grandes Oreilles avant peut-être 2 saisons au plus tôt, plus au plus tard, s'il y a toujours cette mauvaise gestion de la part du board napolitain et de De Laurentiis, un spécialiste un peu du genre.
Laurentiis en plus qui a fait parler, hein, qui a fait parler de lui cette semaine. Pas pour les bonnes manières, mais bon, disons que nos frérots Alan, Tony et leur bande parleront de ça mieux que nous.
Exactement, bah, c'est pour ça que je vous invite, chers auditeurs et chères personnes en live, je ne sais pas comment on dit, liveur, temps additionnel, temps additionnel 12, vous trouvez votre nom et
Les
puis
auditeurs et viewers d'une manière
les
générale.
viewers purés, c'est ça ce mot que je cherchais. Alors c'est la fin de semaine, ne me jugez pas, voilà, c'est très compliqué pour moi. Les viewers, donc si vous avez, bah, voilà, si vous avez du temps ce week-end, on sortira une affiche, un podcast épisode Serie A qui va sortir d'ici vendredi. Il me semble que c'est l'Inter qui est concerné sur cette preview. Inter qui jouera contre. Je fais la recherche en même temps que je vous parle, parce qu'évidemment, je ne sais pas, je connais pas le calendrier de l'Inter par cœur, vous m'excuserez. L'Inter qui jouera contre Naples, justement. Bah voilà, la transition est tout trouvée. Donc, on parlera justement de ça. Donc, bah, des formes récentes de l'Inter de Naples. Deux équipes, spoiler alert, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'Inter, mais qui sont sorties en huitième de finale de Ligue des Champions. L'Inter qui va se retrouver un petit peu dans une. Bon, on en parlera plus tard là, de l'Inter, mais on va en parler aussi de bah, comment Napoli va rebondir de cette déconvenue en Ligue des Champions, et puis de la suite de la saison pour eux. Donc n'hésitez pas, ça va sortir vendredi, et on vous attend nombreux là-dessus. On va passer à Arsenal-Porto. Arsenal-Porto, un des 4 matchs qui a fini au tir au but. Victoire de Arsenal 1-0 au bout du temps réglementaire. Il y a eu des prolongations, et puis des tirs au but où Arsenal a gagné 4-2. T'appuies sur un petit peu le match, Karim?
Alors je te cache pas que ouais j'étais focus sur Barça-Napoli, mais
Quel mauvais choix. Quel mauvais choix.
en ayant quand même un œil sur Arsenal, voir
Ouais.
ce qu'ils peuvent faire, parce que il me semble que ça faisait un bon petit moment qu'on les avait pas vus justement à ce stade de la compétition. Et finalement ouais l'équipe, enfin la formation d'Arteta, de Mikel Arteta, même si personnellement je les voyais plus gagner au bout du temps réglementaire, c'est-à-dire à savoir dans les 90 minutes. Les Gunners, ouais, qui ont quand même pu assurer, bon, au tir au but, certes, mais qui ont fait le taf, hein, face à une équipe de Porto qui était quand même pas très mauvaise, hein, parce que on voit dans le 11 de départ, il y a quand même du joueur en Mario. Il y avait Pepe qui a quand même posé beaucoup de problèmes au Gunner, enfin de mon simple avis. On a quand même en attaque Galeno, Evanisson, Francisco Conceição. Donc voilà, une équipe de Porto qui a quand même posé des problèmes, mais qui a finalement craqué au tir au but, comme spoiler alert, l'Inter face à l'Atlético.
Exactement. Ben moi, j'étais très surpris par cette équipe de Porto qui, tactiquement, a été parfaite. Je pensais vraiment qu'ils allaient être embêtés à l'Emirates. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup de mal, plus de mal en tout cas à l'extérieur qu'à domicile. Après le match, après la victoire contre Arsenal au match aller, ils avaient buté contre l'avant-dernier du championnat à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui a du mal à se déplacer. Je pensais vraiment que ça allait se ressentir et pas du tout. J'ai trouvé les hommes de Conceição vraiment très intelligents tactiquement parlant. On a eu une très bonne utilisation de Costa, le gardien, pour annuler le pressing d'Arsenal. Et on n'a jamais vu une équipe d'Arsenal qui a autant bafouillé dans son pressing grâce à le circuit de relance qui avait été mis en place par un Conceição où justement la balle était donnée au gardien Costa. Les centraux étaient positionnés en tant que latéraux. Et les latéraux, ils voulaient beaucoup plus loin sur le terrain. Et justement, il y a eu une énorme occasion juste après le premier but d'Arsenal avec cette configuration qui a ouvert un trou énorme au milieu de terrain du côté d'Arsenal. On n'avait jamais vu ça, en tout cas de la saison, on n'avait jamais vu une équipe d'Arsenal avec un pressing aussi gruyère, aussi emmental, aussi fromage troué, tout ce que vous voulez. Et ça a été vraiment une opposition de style qui a failli tourner en la faveur de Conceição. Alors après, il y a eu une tactique très Cholisesque, si je peux me permettre de parler comme ça, avec beaucoup de coupures de jeu, beaucoup de provocations, et pas mal de choses pour embêter Arsenal, qui était très intelligent. J'ai trouvé que Porto a fait le très bon choix. Et Arsenal a été très embêté, parce que hormis le but qui a été inscrit, il n'y a pas eu énormément d'occasions du côté d'Arsenal face à Porto. J'ai trouvé la création d'occasions un petit peu difficile. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés en travers de leur match. Alors Trossard a marqué un but, mais il n'a pas très bien joué. Saka a fait alors il n'a pas fait un aussi mauvais match que ce que certains peuvent le dire. Il a fait un bon match, mais il n'a pas été très bon dans les 30 derniers mètres. Et au final, il n'a pas créé beaucoup d'occasions. Havertz a été mis en difficulté par un Pepe, comme tu l'as très bien dit, qui a fait un très bon match. Je voulais aussi rendre hommage à Vairalea au milieu de terrain, qui a été extrêmement bon. Et au milieu de terrain, ça s'est bien tenu. Mais les trois devants ont vraiment fait un match très compliqué, ce qui a empêché la création d'occasions du côté d'Arsenal. Et j'ai trouvé Arteta aussi trop calculateur. D'un côté, tu as Conceição qui a utilisé 4 changements sur 5 qu'il pouvait et qui a ramené de la fraîcheur. À partir de la 65e minute, il y a Porto qui a quand même beaucoup décliné physiquement. Arsenal avait pris un ascendant physique là-dessus. Et pour je ne sais quelle raison, Arteta a décidé de ne pas faire de changement. Et en prolongation, il y a juste eu 2 changements qui ont été apportés par Arteta. Au total, 3, puisqu'il y en a un qui a été fait avant la fin du temps réglementaire. Et cet ascendant physique que Arsenal avait, ils l'ont perdu, malheureusement, parce que il y avait beaucoup trop de fatigue et très peu de changements. Donc au final, ça se joue au tir au but. Et les tirs au but ont été vraiment très bien préparés par Arsenal, avec un Raya qui savait parfaitement où plonger. Je vous invite vraiment à lire le thread sur Twitter de Pierre Carré qui montre comment Arsenal a préparé cette séance de tirs au but. Mais c'était tellement bien préparé qu'au final, la marge de victoire était assez large pour Arsenal face à une équipe de Porto qui était annihilée, je trouve, dans l'émotion et dans la préparation par rapport à Arsenal. Et les tirs au but ont vraiment montré qu'Arsenal était super dans l'exercice, donc tant mieux pour eux, mais ils ont failli avoir très très peur. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Vas-y.
J'ai envie quand même de rajouter un truc, c'est que quand même Pep, mine de rien, a quand même son 41 ans.
43 ans même. Hein,
43 ans même. Et un peu comme le vin, c'est-à-dire plus les années passent, mieux il devient, tu vois.
41 ans, c'est toi qui avais raison. Ouais, oui, absolument. On n'aurait pas dit qu'il avait 41 ans.
Il a quand même été top. Alors, le match a quand même été entaché d'une petite polémique, mais ça, c'était plus en après-match. Et je pense que toi Flo, tu as plus suivi que moi. Il y a eu quand même une petite prise de bec entre Conceição et Arteta. Et bon, on va dire que ça ne m'étonne pas, parce qu'il me semble que ça avait déjà été le cas lors du match aller. Mais, voilà. Mais après, moi, si jamais je dois quand même donner un avis, je pense que ouais, Conceição devrait devrait plus accepter la défaite, même si... Après, je ne sais pas s'il y a vraiment eu des mots très forts dites de la part de Arteta, mais voilà quoi.
Alors là-dessus, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Conceição a perdu contre City. Il a dit la même chose de Guardiola avec des insultes, des allégations d'insultes, plutôt pas des insultes, à son encontre de la part de Guardiola. Il a perdu contre le Chelsea de Tuchel. Il a aussi eu des allégations d'insultes de Tuchel envers sa personne. Et là, il a été battu par Arsenal. Il a mis encore des allégations d'insultes de la part de Arteta. Ça fait quand même 3 fois que ça arrive. Le seul facteur commun, c'est lui. Donc bon, on verra. Ses paroles sont là. C'est dommage que ça finisse comme ça, en tout cas, parce qu'il avait fait une très belle prestation. Tactiquement, je l'avais trouvé très intéressant. C'est juste un petit peu dommage que la fin de match soit un peu tachée de ça, parce qu'il avait eu, il a eu quand même beaucoup de satisfaction malgré la défaite et l'élimination de son côté, je trouve.
Et si je peux rajouter un truc concernant Porto, c'est que maintenant, ils ont le championnat, puisqu'ils sont quand même, ils sont quand même à 7 points de retard du Sporting en Liga NOS, et ils ont également la coupe du Portugal, puisqu'ils sont engagés en demi-finale contre Guimarães. Et le gagnant de ce match, qui comparé à nous en championnat de France, joue en aller-retour. Le gagnant de ce match joue soit le Benfica ou soit Sporting. Donc c'est une petite info concernant la fin de saison qu'attend les hommes de Conceição.
Exactement. Donc oui, la Coupe de Portugal, comme tu dis très très bien, en championnat, ça risque d'être un peu plus compliqué. Aujourd'hui, ils sont à 7 points du Sporting, qui est premier, mais le Sporting a un match en moins, donc potentiellement 10 points pour moins de 10 matchs restants, 9 matchs restants, donc ça va être très compliqué pour eux. Dans tous les cas, il faudra qu'ils sécurisent la Ligue des Champions. Il y a quand même le Benfica à aller chercher pour prendre une deuxième place et aller un petit peu mieux en Ligue des Champions et avoir un meilleur spot, donc à suivre en tout cas. On va passer au match de mercredi de Ligue des Champions, si ça te va. Sur les matchs de mercredi, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu, bien sûr, cet excellent Atlético Inter. Atlético, je te propose de garder un petit peu pour la fin, si ça te dérange.
Ouais, pas pour la fin, parce que Dortmund PSV était aussi un match à enjeu pour notre cher championnat de France.
Exactement. Ben, on va aller du coup sur Dortmund PSV avec une victoire 2-0 du Borussia. Au match aller, le Borussia et Dortmund s'étaient quittés sur un score de 20 partout. Un match avec donc un but en début de match, Sancho, et un but en fin de match de Marco Reus. Excuse-moi si je l'ai mal dit, j'ai un accent dégueulasse. Reus, voilà, c'est beaucoup.
Tu penses beaucoup. Si, au cas où, si tu t'hésites sur la prononciation, tu penses à Rolls-Royce.
Ah, bien vu. Franchement, merci. J'y pense la prochaine fois. Eh bien, ça fera un très bon conseil. Est-ce que tu as vu ce match, toi?
Disons que là, autant pour les matchs du mercredi, j'étais un peu sur les deux. Donc, même si j'étais un peu plus attentionné sur Dortmund, puisque, comme je l'ai un peu dit en preview, si Dortmund parvenait à gagner ce match, la France s'assurerait une place supplémentaire en Ligue des Champions, ce qui fait que là maintenant on est sur 3+1. Avant on était sur du 2+1, donc les deux premiers du championnat plus le troisième qui passe en barrage. Maintenant c'est 3+1 pour l'année prochaine. Trois clubs directement qualifiés en Ligue des Champions et le quatrième en barrage.
Ok, ouais, donc très bonne nouvelle pour la France déjà, et puis très bonne chose aussi pour Dortmund qui vit une saison un peu compliquée en Allemagne et qui peut permettre de sortir de la tête de l'eau grâce à ça. Sur le match en globalité, moi j'ai vu un match quand même assez équilibré, avec qui aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. Les deux équipes ont fait une belle opposition de style, mais l'efficacité a été plus du côté du Borussia qui a quand même directement marqué un but en début de match. Ça a un petit peu aussi changé la physionomie du match. Et malheureusement, le PSV, malgré une belle prestation, n'a pas réussi à trouver la solution. Il n'a pas réussi derrière à remonter ce match-là. C'est dommage. C'était vraiment un match très ouvert. Mais au final, le Borussia était plus efficace.
Ouais, exactement. Et après, même si voilà, ce n'est que mon avis personnel, j'étais pas très confiant sur la compo que nous a fournie Edin Terzic. Parce que quand tu vois quand même... quand tu vois quand même une défense centrale, Niklas Süle, Mats Hummels, tu te dis, ouais, il y a à voir ce que ça a donné. Parce que quand tu vois des joueurs comme Tillman, Luc de Jong, qui a fait le bonheur du Barça et qui maintenant est beaucoup plus tranquille du côté du PSV Eindhoven, Bakayoko, qui me semble sur une action, avait donné le tournis à Mats Hummels. Donc voilà, tu vois des trucs, tu as des, tu vois ça, tu te dis, ça fait peur. Et surtout quand tu vois sur le couloir de Emre Can, tu vois un joueur comme Serginho Dest, tu te dis, ouais, quand même quelque chose qui peut se passer. Bon, on a quand même eu le but très rapide de Jadon Sancho. Jadon Sancho qui commence un peu à revenir du côté du BVB. Mais voilà, heureusement que le BVB a tenu et a fini par marquer le deuxième but grâce à Marco Reus. Mais voilà, j'ai envie de dire, ouais, pour le PSV, ouais, y a des regrets, tant ils ont voilà, ils n'ont pas su égaliser dans ce match, voire même le tuer, parce qu'ils ont quand même eu les capacités pour le faire, notamment avec, comme je l'ai dit là, ce trio d'attaque Tillman, De Jong, Bakayoko. Mais voilà, Dortmund respire comme le Barça le fait avec cette qualification en quart de finale. À voir ce que ça a donné. Est-ce que ce sera un coup de boost pour revenir plus fort en championnat. Et voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Okay.
Et puis la petite belle histoire du côté Dortmund, c'est Jadon Sancho qui se relance très très bien après un début de saison très compliqué à United. Il a l'air de revivre un petit peu dans ses terres où il a commencé, où il a percé, donc c'est très bien pour lui. Et l'ironie du sort aussi, et que son but là pourrait peut-être empêcher United d'avoir une place en Ligue des Champions la saison prochaine, puisque donc on sait qu'avec cette nouvelle formule, les clubs anglais auraient pu permettre d'avoir un 4+1 en termes de place à l'UEFA. Avec la victoire de Dortmund, ça laisse plus de points pour les équipes allemandes, et donc du coup un suspense aujourd'hui pour savoir qui est de quel des championnats allemands ou anglais aura ce 4+1. On verra en tout cas la suite, mais Sancho pourrait faire coup double avec une petite vengeance envers Ten Hag, et puis une belle histoire avec le Borussia. On va passer au dernier match, le match, je pense, qui a fait vibrer beaucoup de monde et sur lequel il y a eu énormément de rebondissements et sur lequel on ne s'attendait pas. C'est l'Atlético Madrid qui a triomphé de l'Inter Milan, malheureusement pour les interistes et malheureusement pour Alban, sur ce match-là, avec un match absolument fou, où l'Inter a très vite ouvert le score, enfin pas très vite ouvert le score, mais a ouvert le score. Griezmann a égalisé sur une action sublime, et Depay, en fin de match, marque ce but qui arrache les prolongations. On a eu ensuite des prolongations un petit peu insipides, les tirs au but, et puis un claquage complet de Lautaro Martinez.
Franchement, j'ai envie de dire, allez petite, la petite bise à nos chroniqueurs espagnols, que partido. Madre mio, que partido. Et ouais, non, franchement, c'est... Je vais me faire des ennemis. C'était le meilleur huitième de finale qu'on ait
sorti. Je pense que tout le monde le pense, honnêtement, dans l'intensité, dans le scénario, dans les rebondissements, dans les buts marqués. Ça a été ce qui s'est fait de mieux sur même les confrontations aller et retour. Ça a été le meilleur match.
Ouais, franchement. Et j'avais... alors certes, autant, j'avais pas pu voir les buts de Di Marco et Antoine Griezmann. D'ailleurs, c'était des buts qui se suivaient, justement. Mais par contre, j'ai pu voir quand même le but qui envoie l'Atlético en prolongation. Même si les Colchoneros avaient l'opportunité en toute fin de temps réglementaire de carrément tuer les interistes, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Il y a eu, comme tu l'as dit, des prolongations insipides, et comme pour le match d'Arsenal, ça s'est joué au tir au but, et à ce jeu-là on a eu aussi une petite polémique d'Antoine Griezmann. On ne dira pas les mots qu'il a employés envers l'ancien Marseillais Alexis Sanchez.
Ouais, surtout qu'ils vont encore sur les matchs amicaux qui arrivent. Donc,
voilà. Et puis c'est surtout parce qu'on est des gens bien. Voilà. Mais non, pour revenir sur le terrain, sur la partie, ouais, l'Atlético qui était plus fort mentalement que les intéressés à la règle des tirs au but. Et comme tu l'avais dit en début de podcast, il me semble, la qualification de l'Atlético fait que là, on a trois clubs espagnols en quart de finale.
Ouais, bah, mais grosse surprise, honnêtement, moi, l'Inter, alors personnellement, je vais prendre la bande terre que je mérite, mais je voyais favori dans cette Coupe des Ligues des Champions. J'ai trouvé tactiquement très solide, une équipe sûre de ses forces avec un Inzaghi qui est arrivé à une maturité de jeu comme on en avait rarement vu. Je tombe de très haut en les voyant. Alors, c'est vrai que l'Atlético, sur des coups d'éclat comme ça, peut faire basculer n'importe quelle équipe. Ils ont cette chose inévitable, surtout au Wanda Metropolitano, où il y a une ambiance particulière qui fait que n'importe quelle équipe pourrait vaciller. Mais j'étais très surpris de les voir à ce niveau-là. C'est peut-être le meilleur match qu'ils ont fait depuis un petit moment, en tout cas sur la scène européenne. Et vraiment, bravo à eux, parce que je plains l'équipe qui va les avoir en quart de finale. Ça va être une sacrée paire de manches pour les sortir.
Ouais.
Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match-là, ou est-ce que tu vas passer au petit débat?
Non, je partage clairement ton avis.
On va passer au petit débat, du coup, avant de passer au petit quart de finale. Il y a eu des discussions sur Twitter, notamment. Certaines personnes disaient que, oui, cette Ligue des Champions, en tout cas cette année, est moins intéressante que ce qu'on avait auparavant. Je ne sais pas pourquoi je prends le ton de Julien Chies quand je dis ça. Aucune idée. Mais voilà.
Oh, non.
Ouais, en plus, ce n'est pas la meilleure référence. Désolé, Julien, si tu nous écoutes. Je ne veux pas briser ton cœur.
Oh non, pas ça.
Pas maintenant. Non, donc... Toi, Karim, est-ce que tu sens que cette édition de cette année, elle est moins intéressante que ce qu'on avait vu les années précédentes jusque-là ou pas ?
Alors, je ne te cache pas que c'est quand même une édition que j'ai pas spécialement suivie cette année. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que voilà, on arrive à la dernière édition de la Ligue des Champions, enfin, du moins la dernière édition qu'on connaît. Mais voilà, c'est pas vraiment une édition que j'ai suivie. Mais voilà, je pense que ouais, de mon propre avis, il y a quand même eu de grosses surprises. Et on en a parlé justement lors du débrief sur la fin des matchs de poule. Mais voilà, c'est pas ça qui justifie, on va dire, le manque d'intérêt sur la Ligue des Champions en elle-même. Donc voilà, moi personnellement, c'est quand même une édition qui a été quand même plutôt agréable à suivre. Après, à voir ce que ça va donner justement à partir des quarts de finale. Mais disons que voilà, franchement, j'ai envie de dire à nous fans de foot quand même. Je suppose que les chroniqueurs de terre ont surtout connu l'époque où il me semble c'était entre la phase de poule et les huitièmes de finale, voire les quarts. Il me semble il y avait encore une deuxième phase de poule. Il me semble que c'était dans les années 2000 qu'il y a eu cette version là. Moi j'ai envie de dire faut qu'on profite de cette Ligue des Champions dans cette version là. Parce qu'à partir de la saison prochaine, il va y avoir plus de matchs. Ouais. Et je pense moins d'intérêt à regarder cette coupe aux grandes oreilles qu'avant.
Ok, oui, bah, tu soulèves quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est vrai qu'il y a moins d'intérêt pour la Ligue des Champions de plus en plus. Moi, il est vrai qu'avant qu'Arsenal se qualifie, j'avais plus de mal sur les saisons précédentes à m'y intéresser. Parce que je trouvais, bah, tu l'as vu, surtout depuis la suppression du but à l'extérieur, on a eu des matchs un peu moins intéressants à l'aller. Tout se joue au retour.
Je n'avais pas soulevé ce détail-là, ouais.
Mais c'est vrai que ça fait une vraie différence. On a des matchs qui sont un peu moins intéressants au match aller, des équipes qui sont plus dans le calcul. Et tout a tendance souvent à se jouer au match retour. Donc c'est quelque chose qui nuit un petit peu au spectacle et qui a fait une grosse différence, je trouve, dans ce qui était proposé. Mais il est vrai qu'à partir des quarts et à partir des demi, à chaque année, il y a eu une accélération du rythme, une élévation du niveau. Qui fait quand même que cette compétition reste particulière. C'est juste que, comme tu le dis, jusqu'au huitième de finale, c'est pas très intéressant. Et de mon sens, ça a toujours été le cas, même sur les années précédentes, où on n'avait pas beaucoup de gros matchs. On en a eu une ou deux affiches. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi là cette année, avec une grosse affiche qui a tenu ses promesses et le reste un petit peu décevant. Mais il faudra peut-être, c'est vrai, attendre un petit peu ce qu'on va voir en quart de demi-finale pour vous juger si la chose est bonne. En tout cas, tu l'as raison, cette formule, elle s'essouffle. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce nouveau format, moi, j'ai un petit peu plus de mal, mais il est vrai que ça pourra peut-être amener un peu plus de nouveaux... d'un nouvel intérêt et plus de curiosité pour suivre un peu la compétition.
Et puis par rapport à ce que je disais, par rapport au format qu'il y a eu avant celle qu'on connaît actuellement, ouais, effectivement, c'était ça. C'était une phase de poule, une phase de poule de 4, puis une deuxième phase de poule de 4. Et à partir de la saison 2003-2004, c'était le format qu'on connaît actuellement. En gros, phase de poule, huitième, quart, demi et finale.
Oui, exactement, c'est ça. Donc, à suivre en tout cas. À suivre. Ce que je te propose du coup, c'est que cette année, et on salue Thomas de Artilleur qui nous a rejoint. Thomas, on le salue, puisque aussi, en parlant un petit peu des huitièmes de finale, il y aura un épisode d'Artilleur qui sortira sur le débrief de ce huitième de finale de Ligue des Champions, focus sur Arsenal. Il sortira d'ici 2 semaines, si je n'ai pas de bêtises. Donc, suivez ça, ce sera très intéressant.
Et je vous le conseille amplement.
C'est gentil, merci beaucoup pour la force. Ce que je propose du coup, c'est qu'on a fait un post aujourd'hui sur Twitter qui disait quel est le quart de finale qui nous hype le peu, quelles seraient les affiches qu'on souhaiterait avoir. Toi, lesquelles tu souhaiterais avoir comme affiche?
Moi personnellement, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai surveillé, mais voilà, personnellement, j'aurais préféré attendre le tirage au sort qui, il me semble, aura lieu demain. Mais voilà, alors déjà, j'ai quand même commencé par une question: est-ce que les clubs de même nation peuvent
se rencontrer?
Ok. Mais moi personnellement, je suis plus quelqu'un qui est pour le spectacle, tu vois. Donc qui veut, on va dire, des beaux matchs à partir des quarts de finale. Moi personnellement, je verrais bien, on va dire, le PSG se frotter un club anglais. Soit Arsenal, soit Manchester City, même si je pense que ma tendance personnelle préférerait voir un PSG Arsenal. Concernant Manchester City, j'ai envie de dire un petit Manchester City Barça.
Ok, pourquoi pas.
Ensuite, je pense que je vais un peu me faire allumer, mais je verrais bien un classiqueur.
D'accord.
Bayern Dortmund et par élimination, le derby de Madrid.
Écoute, c'est pas mal du tout, honnêtement. Alors, moi, je suis un peu moins dans ta team parce que j'aime pas trop les matchs de les confrontations entre les mêmes pays. Je trouve que ça, avant les finales, ça n'a pas un certain charme. Si je joue l'Europe, c'est pour voir aussi d'autres choses que ce que tu vois en championnat. Même si c'est vrai que le derby de Madrid et classiqueur, c'est quand même des belles affiches et c'est intéressant. Je trouve que c'est mieux à partir des demi-finales ou des finales. Donc, ça me plairait bien d'avoir des confrontations entre des clubs de pays différents. J'aime beaucoup l'Arsenal PSG. J'aime beaucoup le City que tu as annoncé contre. T'as mis City contre le Bayern.
City Barça, pardon.
C'est moi. City Barça, j'aime beaucoup aussi. Avec Lille en plus, par rapport au Guardiola, tout ça. Du coup, je vais intervertir les deux affiches dont tu m'as dit. Je verrais bien un Bayern Atletico qui peut être sympa dans la position de style et un Dortmund contre le Real Madrid. Là, ce serait un peu l'affiche un peu déséquilibrée avec le Real qui, je pense, aurait des chances, mais les trois autres affiches seraient assez équilibrées.
On serait bien loin du Dortmund Real qu'on avait connu, il me semble.
Ah ouais, absolument. Ça. Absolument. C'est ça.
Ouais, c'est. Avec Dortmund qui surprend le merengue pour aller défier le Bayern à Wembley avec notamment le résultat qu'on connaît.
Exactement. C'était tout pour moi. En tout cas, réponse sur le tirage au sort demain à midi sur RMC, si je n'ai pas de bêtises, et peut-être qu'elle diffusera ça. On verra si on a eu du pif ou pas, Karim. Si on n'en a pas, on ne s'en vantera pas. Si on en a, bien sûr qu'on partagera sur tous les réseaux sociaux et on dira qu'on est les meilleurs. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour ce live Twitch. Ça sera bien sûr disponible en replay sur Twitch, sur peut-être notre chaîne YouTube, mais aussi sur Spotify et toutes les plateformes de podcast habituelles. On vous souhaite une très bonne fin de semaine. On vous souhaite d'écouter les previews qui vont sortir dans la semaine, là, dans fin de semaine, qui vont concerner donc la Bundes, la Serie A, la Bundes, la Serie A, la Liga. Pour la Première Ligue, on va parler de FA Cup, vu que ce sera un week-end de FA Cup et qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs de Première Ligue. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci à tous, c'était Additionnel. Salut.
Ciao.